Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique pour le quatrième dimanche de Carême. En passant, Jésus voit un individu qui est aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogent en disant
« Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?»
Jésus répond
« Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que l'action de Dieu soit manifestée en lui. Tant qu'il fait jour, pour nous il nous faut agir en faisant l'action de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. » Où personne ne peut agir. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »
Ayant dit cela, il crache à terre et fait de la boue avec la salive, et il oint ses yeux de la boue. Puis il dit,
« Va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie « envoyer ».
Il se rend donc, se lave et revient, voyant. Ses voisins et ceux qui le voyaient auparavant qui mendiaient disent alors
« N'est-il pas celui qui était assis et mendiait ?»
Les uns disent que c'est lui, et d'autres disent
« Absolument pas, mais il lui ressemble. »
Mais celui-là a dit
« C'est moi. »
Alors ils lui disent
« Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?»
Celui-là lui répond
« La personne qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux, et il m'a dit « « Va à Siloé, lave-toi. » Alors, en me rendant et en me lavant, j'ai recouvré la vue.
Et lui demande
« Où est-il celui-là ? »
Il dit
« Je ne sais pas. »
Ils amènent aux pharisiens celui qui, avant, était aveugle. Or, c'était un sabbat, ce jour où Jésus a fait de la boue et lui a ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandent donc aussi comment il a retrouvé la vue. Lui leur dit,
« Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. »
Certains des pharisiens disent,
« Cet individu n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. »
D'autres disent,
« Mais comment quelqu'un de pécheur peut-il faire de tels signes ?»
C'est la division entre eux. De nouveau, ils disent à l'aveugle,
« Toi, que dis-tu de lui du fait qu'il a ouvert tes yeux ?»
Il dit,
« C'est un prophète. »
Les Juifs ne croient pas qu'il était aveugle et qu'il a retrouvé la vue, jusqu'à ce qu'il appelle les parents de celui qui a recouvré la vue. Ils les interrogent et disent,
« Celui-ci est-il votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment donc est-ce qu'il voit maintenant ?»
Ses parents répondent et disent,
« Nous savons que celui-ci est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment est-ce que maintenant il voit ? Nous ne savons pas. » Ou qui a ouvert ses yeux, nous ne savons pas. Interrogez-le. Il a l'âge, lui, de parler de lui-même. »
Ses parents disent cela parce qu'ils ont peur des Juifs. En effet, les Juifs ont déjà convenu que si quelqu'un reconnaît Jésus comme Messie, il sera exclu de la synagogue. Voilà pourquoi les parents disent « Il a l'âge, interrogez-le. » Alors, pour la deuxième fois, il appelle l'individu qui était aveugle et lui disent
« Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet individu est pécheur. »
Celui-là répond
« S'il est pécheur, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. »
Ils lui disent
« Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?»
Il leur répond
« Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'écouter à nouveau ? Est-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples ?»
Ils se mettent à l'insulter et lui disent
« Toi, tu es disciple de celui-là. Nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. »
L'individu répond et leur dit
« En effet, l'étonnant ceci, c'est que vous ne savez pas d'où il est. Et il m'a ouvert les yeux. Nous savons bien que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un le vénère et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Au grand jamais, on a entendu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. »
Ils répondent et lui disent :
toi, tu es né tout entier dans les péchés et tu nous fais la leçon.
Et ils le jettent dehors. Jésus apprend qu'ils l'ont jeté dehors. Le rencontrant, il dit :
toi, as-tu foi dans le Fils de l'homme ?
Celui-là répond et dit :
qui est-il, mon Seigneur, pour que j'aie foi en lui ?
Jésus lui dit :
tu en as la vision. Celui qui te parle, c'est lui.
Il déclare :
j'ai foi, mon Seigneur.
Et il se prosterne devant lui. Jésus dit alors :
c'est pour un jugement que moi je suis venu dans ce monde, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles.
Ceux des pharisiens qui sont avec lui entendent ses propos et lui disent :
est-ce que nous aussi nous sommes aveugles ?
Jésus leur dit :
si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Actuellement, vous dites : nous voyons, votre péché demeure. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, un chrétien ne peut lire un tel récit sans se demander auquel des acteurs il s'identifie. L'aveugle né, les parents, les voisins, les pharisiens. L'étude du texte nous dira comment chacun se situe par rapport à Jésus, qui est bien le personnage central. Et toi, que dis-tu de lui ? Crois-tu au Fils de l'homme ? Qui est-il pour que j'aie foi en lui ?
La place du texte dans le récit de Jean peut-elle nous éclairer ?
Oui. Ce texte se situe au centre d'un grand ensemble, et qui va du chapitre 7 à la fin du chapitre 11. Et cela est encadré par deux références, Jean 7.1 et Jean 11.53, référence à la proximité de la mort de Jésus. Jésus ne voulait pas circuler en Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. Et les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres, si quelqu'un savait où il était, qu'il l'indique pour qu'il l'arrête. Nous sommes à la fin de la fête des Tentes, une fête qui sert de cadre dans les autres récits évangéliques, les synoptiques, à la transfiguration. Ce moment de la transfiguration qui est crucial dans la vie de Jésus et qui est lié à la proximité de sa mort. En effet, Luc indique que Jésus parle avec Moïse et Élie de son exode, c'est-à-dire de son départ de ce monde. Eh bien, rappelons peut-être ce qu'est cette fête. Au temps de Jésus, la fête des Tentes, chaque matin, les pèlerins font leur entrée dans le temple en portant des fruits, des palmes et des branches vertes. Et on chante des psaumes où l'on redit l'attente du Messie. Et en fin d'après-midi, un prêtre va remplir un vase à la piscine de Siloé, où se trouve une source qui alimente Jérusalem. Et quand on ramène cette eau au temple, eh bien, on va prier bien sûr pour l'eau qui va permettre les récoltes, mais aussi pour demander la sagesse de Dieu qu'on doit puiser dans la Torah, car on le sait, l'eau est le symbole de la sagesse, est le symbole de l'Esprit divin. Et à la nuit tombante, eh bien, on allumera d'immenses torchères pour illuminer les parvis du temple, et cela afin de rappeler la nuée lumineuse qui a éclairé les Juifs lors de l'Exode, de leur sortie d'Égypte, et qui va être le symbole de la présence divine, cette présence qui accompagnait les tribus juives dans leur libération. La fête des Tentes, c'est donc une fête de l'eau et de la lumière. Et Jésus va s'y révéler comme étant lui-même cette eau de l'enseignement de Dieu. Écoutons-le.
Au dernier jour de la fête, Jésus s'écrie : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Et après avoir dit à la femme adultère : je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, il s'écrie :
je suis la lumière du monde. Celui qui devient mon disciple ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Et ces paroles vont susciter la controverse. Les uns disent : vraiment, voici le prophète. D'autres disent : le Messie, c'est lui. D'autres objectent : le Messie pourrait-il venir de la Galilée ? La foule est donc divisée à son sujet et on veut l'arrêter. Eh bien, notre récit, qui se situe dans tout ce contexte, sera également suivi d'un enseignement de Jésus où il se présentera comme le Messie sous les traits du bon pasteur, mais un bon pasteur qui justement va donner sa vie pour ses brebis.
J'observe que sur les 41 versets du récit de l'aveugle-né, deux seulement concernent la guérison proprement dite. Où se trouve le véritable sens d'intérêt du texte?
Et en effet, il ne s'agit pas ici de décrire un geste merveilleux et extraordinaire. D'ailleurs, rappelons-le, les évangiles ne sont pas rédigés à la manière des journalistes qui cherchent le sensationnel. L'évangile n'est jamais du direct. Le sensationnel, d'ailleurs, n'est pas toujours vrai, et il nous laisse souvent à la superficie des choses. Il ne nous fait pas pénétrer le cœur profond de la personne. Tout ce qui flashe est un trompe-l'œil. Ce n'est pas la vraie réalité. Ici, la vraie réalité, c'est de nous montrer qui est Jésus pour nous amener à nous situer devant lui, à prendre position en face de son enseignement. Et dès le départ, donc, le récit nous indique ce qui est en jeu, l'affirmation de Jésus « Je suis la lumière du monde ». Comment Jésus va-t-il justifier son affirmation? Il prend prétexte que ses disciples l'ont interrogé sur la raison de la cécité d'un individu, et une cécité qui l'a frappé à sa naissance. « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» On se souvient que déjà le prophète Ézéchiel avait dit qu'on ne pouvait pas être puni pour les fautes des ancêtres. C'était une conception très fréquente à cette époque, et sans doute elle demeure encore au temps de Jésus. Mais Jésus semble d'ailleurs aller plus loin, et il va affirmer que le malheur, la maladie, ne doit jamais être vu comme la punition de Dieu parce que l'on a péché. À l'époque, certains rabbins, pour expliquer les malformations de naissance, pensaient même que l'enfant pouvait pécher dans le sein de sa mère. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, on a cette conception lorsqu'on entend « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive un tel malheur ?» Eh bien, Jésus répond, et il nous répond, que ni lui, ni ses parents ne sont coupables. D'abord, c'est que pour Jésus, Dieu n'est pas un punisseur. Au contraire, c'est un Père plein de compassion, plein de bonté, qui veut libérer l'être humain de ses angoisses et de ses fautes. Devant la souffrance, Dieu, nous dit Jésus, intervient pour guérir et réconforter. D'ailleurs, tout au long de l'Évangile, Jésus ne s'arrête pas au pourquoi des maladies et des catastrophes, mais il va agir devant les catastrophes et les maladies en luttant contre le mal. C'est là, cette lutte contre le mal, qui est l'action de Dieu, et une action de Dieu qui va se manifester dans cet homme aveugle. Il y a deux sortes de souffrances, comme disaient les rabbins. La souffrance qui s'explique par le châtiment, Jésus nous dit que celle-là n'est pas vraie, sauf si elle est simplement une conséquence immédiate d'une chose que l'on a posée. Je mets ma main sur le poil qui est brûlant, je me fais une brûlure. Mais une autre sorte de souffrance, disaient les rabbins, c'est la souffrance qui est destinée à éveiller l'amour. Voilà, je pense, ce qui nous est dit aujourd'hui. L'action de Dieu, c'est l'action de sa miséricorde. Paul Claudel disait, je cite de mémoire, « Jésus n'est pas venu expliquer le mal et la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence. »
Comment Jésus va-t-il guérir cet aveugle?
Il crache à terre, il fait de la boue avec la salive et il oint les yeux de l'aveugle de la boue. C'est un peu curieux, mais ce geste de Jésus utilisant sa salive est un geste sans doute courant à l'époque, car on accordait à la salive des vertus curatives. Et pour la boue, aujourd'hui encore, on utilise certaines boues comme des baumes pour guérir des maladies et notamment pour guérir l'arthrose. Mais c'est ça qui est le plus important. Rappelons que l'aveugle va se laver à la piscine de l'envoyé. C'est en effet ce que signifie le mot Siloé, l'envoyé. Et on a vu que la piscine, l'eau de la piscine, l'eau de cette source qui alimente cette piscine, est le symbole de la parole de Dieu. C'est l'eau vive. Cette piscine va d'ailleurs aussi être le symbole de Jésus lui-même, puisque il vient de nous rappeler qu'il est l'envoyé du Père. Tant qu'il fait jour, il me faut agir comme celui qui m'envoie. Le prophète Isaïe avait déjà décrit de cette manière l'action du serviteur de Dieu. Écoutons le texte du chapitre 42.
Je ferai marcher les aveugles sur un chemin inconnu d'eux. Sur des sentiers inconnus d'eux, je les ferai cheminer. Je transformerai devant eux les ténèbres en lumière.
Eh bien, Jésus, l'envoyé du Père, est le serviteur de Dieu qui vient apporter la pleine lumière de Dieu. Et l'aveugle va progressivement connaître qui est celui qui lui a ouvert les yeux. Ainsi, au fur et à mesure que le récit progresse, on va passer de l'homme qu'on appelle Jésus à « c'est un prophète », puis « crois-tu dans le Fils de l'homme ?» Déjà, on se souvient que dans le texte de la Samaritaine, qui disait que le Messie allait faire connaître toutes choses sur Dieu, Jésus lui avait dit « Eh bien, ce Messie, je le suis, moi qui te parle. » Eh bien, ici encore, la révélation est liée à la parole. Jésus va dire à l'aveugle « Tu en as la vision, celui qui te parle, c'est lui le Messie. » L'aveugle devient ainsi dans ce récit le modèle du croyant en Jésus, de celui qui se laisse nourrir par la nourriture que donne le vrai pasteur, le pasteur des fils et des filles du Père. L'aveugle a reconnu en Jésus l'image du véritable Dieu, du véritable bon pasteur, celui qui est bonté et compassion. Le juif André Chouraki, commentant ce passage, dit très bien, dans la note de son évangile de Jean, un texte que nous allons entendre.
Les miracles que les évangiles attribuent à Jésus ont tous un caractère symbolique, plus particulièrement ceux qui rendent la vue aux aveugles. Par son enseignement, Jésus vise à ouvrir le regard intérieur de l'homme sur la gloire du Seigneur Dieu, sur son amour.
Et l'apôtre Paul dira plus tard, « Nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée. » Et Paul va expliquer que cette sagesse est révélée au Christ par l'Esprit de Dieu et que cette sagesse va se révéler par la mort de la croix comme un geste ultime de l'amour.
Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, il est Messie, puissance de Dieu et sagesse de Dieu.
Eh bien, souvenons-nous que cette fête des tentes, qui est le fond de tableau de notre passage de l'aveugle-né, est marquée par l'annonce de la mort de Jésus. Jésus qui sera jeté dehors, hors de la ville du temple Jérusalem, comme déjà l'aveugle guéri, va être jeté hors du temple.
Face à ce Jésus, comment vont se comporter les autres acteurs de ce drame?
Eh bien, il y a d'abord les voisins. Alors, les voisins sont curieux de voir ce faiseur de miracles. Tes yeux, comment est-ce qu'ils se sont ouverts? Où est-il, celui-là? Cette curiosité ne mène pas loin dans la reconnaissance de qui est vraiment Jésus. Ces gens ne voient en effet qu'un prodige et ils restent à la superficie des choses. Ils ne verront pas dans la guérison le signe que Jésus est l'envoyé de Dieu, celui qui apporte sa sagesse. Les parents, eux, ils semblent surtout paralysés par la peur d'être exclus de la synagogue. Est-ce que cette exclusion de la synagogue peut se justifier? Peut-être parce que reconnaître Jésus comme Messie à l'époque équivalait à contester l'autorité de l'empereur de Rome. En effet, se prétendre Messie, c'était se déclarer comme le roi d'Israël. Et les grands prêtres juifs, qui tenaient leur pouvoir religieux de la condescendance des autorités romaines, sont effrayés par tout mouvement de rébellion ouverte contre Rome, car cela risquait d'entraîner leur propre destitution. Mais les premiers chrétiens après Pâques seront effectivement bien vite exclus des synagogues. Enfin, il y a les pharisiens. Et les pharisiens s'interrogent sur cet homme guérisseur. Les pharisiens, ce sont des gens très rigoureusement fidèles aux préceptes de la Torah, de l'enseignement de Dieu. Et leur pureté, au moins extérieure, dans la pratique externe, les mène à se séparer des petites gens qu'ils considèrent comme des pécheurs. Parce que ces petites gens ne pratiquent pas avec autant de rigueur les préceptes de la religion. Et dès le départ, ces gens-là vont contester Jésus. Celui-là ne vient pas de Dieu. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'observent pas le repos du sabbat. Les yeux de ces pharisiens sont aveuglés. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils font passer l'observance des rites et des lois avant l'amour et la compassion. Vous rappelez qu'on ne devait pas guérir le jour du sabbat que s'il y avait danger de mort. Et il y avait même 39 activités interdites durant le sabbat, dont l'une était pétrir, et Jésus va pétrir la boue. Il était, dans la tradition aussi, défendu d'oindre les yeux ce jour-là. Pour ces pharisiens, il est plus important de respecter la règle du repos que de guérir, de soulager son prochain. Et c'est cela que Jésus conteste, car pour lui, il redira souvent cette parole du prophète, « Ce que je veux, dit Dieu, c'est la miséricorde et non pas vos offrandes cultuelles. » Aujourd'hui, est-ce qu'il n'en est pas d'ailleurs un peu ainsi? Lorsque nous donnons priorité à des observances, comme par exemple d'aller à l'église, et que cela nous dispense de rendre visite à une personne qui est malade. Ou bien, même si une personne a été accidentée par sa faute, parce qu'elle était en boisson, est-ce que nous serions justifiés de la juger? Et est-ce que nous serions ainsi dispensés de compatir à sa souffrance? Non. Une priorité n'est pas la bonne, nous dit Jésus, lorsqu'elle n'est pas dictée par l'amour. Et cette rigueur dans l'observation des lois et cette priorité qu'on donne aux lois sur l'amour, eh bien cela ferme le cœur, cela rend aveugle au vrai visage du Dieu qui est le Dieu d'amour. Isaïe avait d'ailleurs déjà décrit cette attitude.
La vision de tout cela est pour vous comme les mots d'un document scellé. Ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole. Ses lèvres seules me rendent gloire, mais son cœur est loin de moi. La vénération qu'il me témoigne n'est que précepte humain, leçon apprise.
Et Jésus a traduit ça dans sa prière, cette fermeture des gens qui savent et cette ouverture aux petits. Il va dire, je te bénis Père d'avoir caché ce mystère aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Eh bien, les sages et les intelligents sont ceux qui croient voir et qui n'ouvrent donc pas leur cœur à la lumière. En fait, ils sont aveuglés et ils resteront aveugles. Certains même iront jusqu'à traiter Jésus de possédé du démon.
Plusieurs disent, il a un démon et il délire. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disent, ces paroles ne sont pas celles d'un possédé. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle?
Par contre, ceux qui se reconnaissent aveugles parce qu'ils se savent pauvres d'amour, pécheurs, eh bien ceux-là vont ouvrir leur cœur et ils verront. Alexis Carrel disait, « Dieu est abordable à celui qui sait aimer, il se cache à celui qui ne sait que comprendre. Dieu ne se révèle que dans l'amour, mais ajoutons, dans l'amour qui va jusqu'au pardon, jusqu'à livrer sa vie pour ceux qu'on aime. »
Pour nous, comment Jésus est-il la lumière de notre vie?
Eh bien, écoutons un petit exemple que nous pouvons donner d'un fait vécu. Il s'agit de Joseph.
Joseph, un ami, a connu des périodes aveugles et ténébreuses dans sa vie. Il s'évadait dans l'alcool, la drogue, le sexe, etc. Il a même frôlé le suicide, mais il s'est manqué. L'étonnant, c'est que dans ce désespoir aveugle, une petite lumière a scintillé. Comment? Pourquoi à tel moment donné, on ne sait le dire. Qu'est-ce qui fait qu'il a été attentif à cette attention divine gratuite, au passage de la grâce? Nous touchons là au mystère de l'humain et du divin. Il a repris goût à la vie grâce à un certain calme intérieur. Il s'est mis à prier, à méditer, à faire des meetings AA, à faire des lectures sur les différentes voies spirituelles, plus particulièrement sur l'hindouisme et le bouddhisme. Puis, il s'est intéressé à la personne de Jésus. Il a mieux compris que le chemin proposé par Jésus est d'abord une rencontre personnelle avec Dieu qui n'est qu'amour. Celui qui est source de vie, être suprême, c'est d'abord un Père. Le Dieu de Jésus n'est pas une force anonyme ni un juge, mais un être qui veut tisser une relation de communion avec chaque être humain. Pour mieux connaître le Père, Joseph se plonge maintenant dans la parole de son envoyé, pratiquant régulièrement des partages d'évangile avec un groupe.
Oui, et bien quelles que soient nos ténèbres, nous pouvons nous approcher de Jésus. Et Joseph est un exemple parmi bien d'autres qui nous montre comment une personne peut s'éveiller à la vie spirituelle, cheminer et découvrir Jésus comme lumière qui nous conduit au Père. Et alors, à son tour, celui-là, celle-là, devient lumière pour ceux qui l'entourent, comme l'écrivait Paul aux chrétiens d'Éphèse.
Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfant de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, droiture, vérité. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le numéro 514-254-8750. Vous nous trouvez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.